Les rendez-vous de la peste, l'émission qui traite de l'économie sociale et solidaire en Mayenne.
Pour clore la journée Explore Demain, organisée par l'APES le mardi 19 novembre, une conférence avec Jasmine Manet vous propose d'essayer de répondre à quelques questions. Qu'est-ce qui nous attend en termes de transition et pourquoi il faut agir ensemble? Comment créer des collectifs? Comment créer une bonne collaboration? Et comment sortir des clichés et co-construire en intergénérationnel?
Alors, au niveau de l'installation caméra, c'est presque bon, je pense. On va pouvoir enchaîner avec la conférence de Jasmine Manet.
Bonsoir.
Ce soir, moi, je voulais vous parler dans cet événement Explore Demain. Je voulais vous parler de la relève, de ceux qui font demain, ceux qui feront demain, ceux qui font aujourd'hui. La relève pour explorer demain. Pour recontextualiser sur les questions de génération, je voulais convoquer Hésiode, un philosophe de l'Antiquité qui, en 720 avant Jésus-Christ, aurait dit « Je n'ai aucun espoir pour l'avenir de notre pays. Si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement de demain, elle est insupportable, sans retenue, tout simplement terrible. » Ça, c'était il y a plus de 2000 ans. On se retrouve, génération après génération, dans une sorte de débat un peu mortifère, les jeunes contre les vieux et inversement. Pour faire face aujourd'hui aux transformations de notre société, peut-être qu'on n'a pas ce luxe-là. Tout l'enjeu, c'est de trouver comment agir ensemble. C'est un petit peu le fil rouge de mon intervention, vous proposer des leviers d'engagement, d'engagement intergénérationnel, d'engagement pour la transformation. Pour me présenter, je m'appelle Jasmine, j'ai 28 ans. Je suis une jeune femme qui vit à Paris, je suis franco-britannique avec tous les biais et ma vision du monde que ça engendre. Je suis entrepreneur. Donc j'ai fondé d'abord un média d'orientation professionnelle, puis une association que je dirige aujourd'hui, Youth Forever, une association observatoire des jeunesses et de leur rapport au travail. Donc pour aujourd'hui, le programme, c'est celui de l'engagement. D'abord de se poser la question si on s'engage encore aujourd'hui. Je mets juste mon petit timer pour bien respecter mon temps. Je vais vous parler d'engagement dans une société à la première personne. C'est le moi qui semble primer. Pour ensuite poser des pistes de levier d'un engagement ensemble, d'un engagement sur le temps long. Commençons déjà par s'interroger sur la place de cet engagement et un peu mettre un doigt d'honneur au moi. Est-ce qu'on s'engage toujours pour changer le monde? On dit de la société actuelle qu'elle est égoïste, qu'elle est égocentrée, qu'elle est narcissique, qu'on a mis en valeur l'apogée des réussites personnelles de celles et ceux qui, entrepreneurs de leur vie, ont fait primer l'intérêt individuel sur l'intérêt collectif. On voit décliner ces instances du collectif, ces tissus, ces réseaux qui faisaient la force de l'engagement précédemment, par la politique, par exemple, par la religion, par la famille, par tous ces noyaux d'engagement qui permettaient de valoriser nous sur le jeu. Et quelque part, on est héritier de cette trajectoire qui, dans le droit, qui, dans la société, a valorisé l'individu sur le collectif. D'autant plus que le digital n'a fait qu'amplifier cette révolution-là où c'est d'abord moi, c'est d'abord je, parfois anonyme, qui l'emprime sur le nous. On parle même d'une quatrième révolution anthropologique ou de l'imprimerie, enfin, etc., de l'imprimerie aux réseaux sociaux, on rentre dans une nouvelle ère, celle de nouveaux outils, aujourd'hui de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, et de tous ces outils qui, en plus d'externaliser notre mémoire, nous changent notre façon de réfléchir. L'exemple le plus parlant, c'est sans doute le travail. Le travail où aujourd'hui on a cristallisé des relations dans des contrats négociés individuellement, où la place du syndicalisme, la place des collectifs au travail perd d'ampleur, qui laisse place à des nouveaux acteurs comme ceux de l'ESS, mais qui néanmoins repose la question d'un collectif pour négocier chaque point de son travail. Pour cela, et pour essayer de voir qu'est-ce qu'on fait de cette situation, moi je convoque les générations. La génération, en sociologie, c'est une cohorte d'âge façonnée par son époque. Il y a 4 générations aujourd'hui qui cohabitent en société. Pour vous donner les âges, théorisés par les sociologues, ça veut... après ça a plein de limites. En l'occurrence, nous avons la génération X, née entre 65 et 80, pardon, qui est née avant 65, la génération Y entre 65, pardon, la génération X entre 65 et 80, la génération Y entre 80 et 96, la Z entre 96 et 2010, et puis la Alpha qui aujourd'hui est à l'école et qui arrivera sur le marché du travail bien assez tôt. On a 4 générations ou 5 en fonction des moments de société qui se cohabitent, qui interagissent les unes avec les autres et qui sembleraient se reproduisent le schéma qu'Hésiode nous décrivait déjà en 720 avant Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de génération, ce terme qui quand même a plein de limites? Parce que derrière une génération, donc des individus nés en même temps, se cache la diversité, ou comment comparer des personnes de territoire, de diplôme, de genre, de métier, d'origine sociale différents. Se cache aussi une certaine dynamique, on ne reste pas le même qu'on est depuis 20 ans. Et puis se cachent ces conflits qui se cristallisent, jeunes contre vieux, etc. Pourtant, moi j'utilise le terme de génération, pourquoi? Je vous disais, la génération c'est une cohorte d'âge façonnée par son contexte, si je fais de la sociologie en très bref. En l'occurrence, ce qui est intéressant dans les générations, c'est de les utiliser comme une sorte de microscope sur l'époque, de microscope de loupe grossissante sur le contexte. Ce qui se passe notamment chez la jeune génération serait en fait un haut-parleur de tendances, de signaux faibles, de tendances qui traversent la société et qui annoncent un nouvel équilibre, par exemple au travail, mais aussi à l'école, dans notre façon d'apprendre, etc. Regardons donc le contexte pour comprendre ces générations, et notamment la jeune génération qui en est façonnée, en quelque sorte. Si je prends juste 3 tendances, ou 3 faisceaux qui vont influencer sa façon d'être au monde, il y a d'abord les nouvelles technologies, bien sûr, d'une génération de digital native pour les plus jeunes aujourd'hui, qui grandissent avec le digital comme état de fait, et des nouveaux outils comme l'intelligence artificielle qui vont créer nos lettres de motivation, nos projets d'orientation, mais derrière qui vont accompagner toute notre vie. Il y a ensuite les crises, et notamment la crise environnementale, qui façonne à la fois notre façon de penser le présent, mais aussi l'avenir, avec une incapacité de penser le futur, avec incapacité de le concevoir. Et puis il y a la transition démographique qui, bien sûr, rebat les cartes dans un pays comme la France, où la population vieillit. Je vous partage qu'il y a aujourd'hui déjà deux fois plus de personnes plus de 60 ans en France que de 18-29 ans, et ce chiffre ne va qu'augmenter. On voit déjà les conséquences dans des pays comme le Japon, dans un rapport démographique complètement différent. Puis en plus d'avoir de moins en moins de gens en âge et en capacité de travailler, ces gens-là vont devoir s'occuper de leurs aînés, de leurs parents, de leurs enfants, et en l'occurrence seront de moins en moins disponibles également. Le tout ensemble, et je ne parle pas du contexte politique-géopolitique qu'on pourrait ajouter, en l'occurrence le tout façonne ainsi la nouvelle génération, façonne son rapport au temps, dans l'instantanéité permanente, avec une grande incapacité, comme je disais, à penser le temps long. On ne peut plus parler de carrière, par exemple, mais de succession, d'expérience. Façonne sa façon de réfléchir, sa façon d'interagir les uns avec les autres, sa façon de penser l'ambition, de penser la famille, de penser le couple, de penser toutes les sphères de la vie. D'autant plus que la génération devient une sorte de phénomène autoréalisateur, une sorte de prophétie autoréalisatrice. À force de parler de génération dans les médias, comme sur les réseaux sociaux, on finit par croire ce qu'on lit. Et qu'en l'occurrence, quelque chose d'assez inédit, c'est la conscience de génération. En fait, on parle de génération que depuis une cinquantaine d'années. C'est un peu été l'essor avec mai 68 et cette cristallisation autour d'une jeunesse et du reste. Mais en l'occurrence, maintenant, on a conscience de faire partie d'une génération où en 47, 19% des Français se disaient conscients d'appartenir à une génération, alors qu'en 2020, on est à 86%. Donc on entretient comme ça des phénomènes, puis on retrouve dans les médias des étiquettes qu'on colle à chaque génération. Il y a eu la Y, maintenant il y a la Z, mais comme il y a eu avant la X. Et puis on cristallise cette fameuse fracture générationnelle. Si je fais un petit zoom sur la génération Z, c'est comme ça qu'on lit tout un tas d'étiquettes. Elle est flémarde, elle est fainéante, elle est paresseuse, elle est terrible, elle est difficile à manager, elle est difficile à recruter. Quelque part, on répète ce qu'on a déjà dit dans le passé. Est-ce qu'on reproche à des jeunes d'être jeunes, en l'occurrence sans expérience, peut-être naïfs, maladroits, plein de paradoxes? Ou est-ce qu'on est dans un moment assez inédit où la jeunesse d'aujourd'hui serait particulièrement différente? C'est là où il y a peut-être une opportunité pour l'engagement. Une opportunité avec cette fameuse quête de sens dont on parle depuis une dizaine d'années. Une opportunité de parier sur l'intergénérationnel et le mettre au service des causes qui nous tiennent à cœur. Quelque part, dans cette quête de sens, notamment au travail et à l'école, il y a un clash avec d'autres phénomènes qui rythment l'actualité du travail depuis quelques années. Pendant le Covid, on a parlé de fin aux bullshit jobs, donc d'arrêter de travailler dans des métiers qui n'ont aucun sens. Ensuite, on a entendu parler de la grande démission, donc de mouvements de démission massive de salariés partout dans le monde, sans emploi derrière, ce qui était assez inédit, dans des volumes un peu comme un effet boomerang du Covid, où on a eu le temps de réfléchir et on se pose la question et on abandonne son emploi. Et puis, on a ensuite entendu parler de la démission silencieuse, le quiet quitting dans les médias américains, le fait de faire strictement ce qui est écrit sur ma fiche de poste. Récemment, il y a eu le loud quitting, le fait de la démission bruyante, le fait d'afficher son employeur quand je me fais virer. Très américain, néanmoins, on a des exemples aussi en France. Quand on lit cette actualité du travail, on se demande bien qui est encore prêt à travailler, à s'engager. Et c'est là où la quête de sens devient intéressante, c'est un vrai levier à actionner. Parce que derrière, quand on brandit « j'ai besoin d'être utile », et c'est pas que j'ai besoin d'être heureux, j'ai besoin d'avoir un équilibre de vie pro-vie perso, c'est « j'ai besoin d'être utile ». Utile pour moi, utile et pas à tout prix. C'est là où on touche un peu du doigt le paradoxe de l'engagement. On veut servir des causes qui nous tiennent à cœur, on veut s'engager, mais pas dans toute ma vie et pas tout le temps. En l'occurrence, on voit ce phénomène-là dans le travail. Le travail était important pour 60% des Français, très important pour 60% des Français en 1990. La même enquête à qui on pose la question aux Français « qu'est-ce qui est important dans votre vie aujourd'hui ?» révélait qu'en 2022, c'était que 24% des Français qui disaient que le travail était important dans leur vie. On passe de 60% à 24%. Et ça, ce n'est pas les jeunes, hein, ça c'est tous les Français. En l'occurrence, on découvre comme ça que des leviers d'engagement, des endroits d'engagement qui semblaient prioritaires auparavant, bah en fait baissent dans l'ordre des priorités et le sont de moins en moins. Ça ne veut pas dire que le travail disparaît, ça ne veut pas dire que s'engager disparaît. Ça veut simplement dire que d'autres sphères de la vie ont repris un peu plus de place. La famille, les amis, les loisirs et peut-être cette fameuse poche d'engagement. De l'autre côté, quand on lit les études, notamment sur les jeunes, c'est 41% d'entre eux qui disent préférer être au chômage que malheureux dans leur poste. Et puis, on voit toutes sortes d'exemples et de contre-exemples qui nourrissent ou pas ces mythes-là vis-à-vis du travail. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un différent entre les contraintes associées à un engagement, qu'il soit professionnel ou non, et les contreparties. On remet en question le pacte qu'on a tissé, donnant, donnant, gagnant, gagnant. Encore une fois, une opportunité pour vous, parce qu'il y a matière à redéfinir l'engagement et redéfinir la place qu'il a dans notre vie. Et que le constat est là, que d'un engagement qui était politique, syndicaliste, associatif, qui était structurant dans notre vie, on voit un peu l'engagement se transformer pour devenir plus anonyme, plus invisible, plus ponctuel, plus hors système, plus sur les réseaux. Où on ne se reconnaît pas forcément dans les structures traditionnelles d'engagement qu'il faut revaloriser pour les remettre au goût du jour. Et puis, il y a une certaine forme de radicalité qui s'impose, où il faut être pur dans les engagements qu'on prend. On ne peut pas être une chose et l'inverse. On ne peut pas être militant pour le climat et puis prendre l'avion. Et puis, on reproche ça beaucoup les uns aux autres. Ce qui fait que du coup, à quoi bon? Ça sert à rien. De toute façon, je vais me tromper, je vais vouloir changer. Donc, autant ne pas m'engager.
Thank you.
faut sortir de cette tendance où c'était mieux avant. Parce que l'époque change, alors l'engagement aussi. Et c'est peut-être ça la bonne question. Plutôt que de se dire comment on retrouve l'engagement d'avant dans les institutions traditionnelles qui ont favorisé cet engagement, reposer la question à l'envers. Moi, la question que je pose et qui guide mon engagement, c'est qui ? Parce que derrière, quand on va plus loin dans ce que je décrivais de l'actualité du travail, mais globalement de l'actualité de notre société sur toutes les sphères de la vie, on est un peu tenté de baisser les bras. Tenter de baisser les bras par rapport à l'ampleur de la tâche à accomplir, que ce soit au niveau local, au niveau national ou international. Mais derrière, quand on tire un petit peu ce fil-là et qu'on a la tentation d'une paresse, peut-être de désengagement, en l'occurrence, bah, qui va le faire en fait ? Qui seront celles et ceux qui tiendront le 60e forum de la PES 53 dans 57 ans ? Qui seront celles et ceux qui auront envie de s'investir pour des sujets environnementaux, sociaux, politiques, culturels, etc. Qui seront le futur de l'ESS ? Qui seront le futur de la France ? Qui seront les futurs collaborateurs de vos entreprises ? Quelque part, comment est-ce qu'on décentre du jeu au nous ? Comment est-ce qu'on réinvestit ces sphères de collectif pour valoriser un engagement ensemble, mais surtout un engagement pérenne ? Je vais maintenant aller dans des pistes de levier, de solutions. Pour valoriser ce collectif et, comme je disais, faire un peu le doigt d'honneur à l'époque dans laquelle on est. J'ai trois leviers d'abord d'un point de vue collectif et j'irai ensuite sur le long terme. Tout l'enjeu, c'est dans ces collectifs de favoriser la diversité, de favoriser l'expression des points de vue, quelque chose que je ne vous apprends pas, comme c'est votre métier au quotidien, de mettre le différent ensemble pour en faire une puissance. Mais il va falloir déjà commencer par sortir des clichés. Des clichés sur les uns les autres, par exemple les jeunes et les vieux, je me permets, de sortir des clichés sur ce que c'est que s'engager, ce que c'est qu'une association, une collectivité, ce que c'est que une coopérative, ce que c'est qu'une entreprise, ce que c'est qu'un territoire. De sortir des clichés, ça va commencer par déjà se rencontrer les uns les autres. C'est d'incarner toute la journée par les gens, par les lieux, par les espaces, l'engagement que vous représentez. Et de permettre comme ça de valoriser des publics différents qui s'engagent chez vous. On dit souvent que la jeunesse, enfin que les plus engagés, et les chiffres le démontrent, sont les plus jeunes et les plus âgés. Il y a souvent toute une part de retraités et puis toute une part d'étudiants, a priori ceux qui ont un peu plus de temps. Néanmoins, souvent dans ces associations-là, ils ne se croisent pas beaucoup. En tout cas, c'est ce que montrent la plupart des études, surtout post-Covid. Il y a beaucoup de jeunes et de retraités engagés, mais souvent dans des structures différentes. Quand on va voir les associations, disons, existantes, qui ont déjà pas mal de bouteilles, ils ont beaucoup de mal à réinventer leur rang et à associer des jeunes à leurs histoires. De l'autre côté, côté jeunes, il y a un côté un petit peu renouvellement naturel, notamment d'étudiants qui rentrent dans la vie active, qui s'en détachent, qui vieillissent. Et donc, il faut comme ça toujours trouver de nouveaux viviers. Et si on mélangeait ? Vous le faites sur plein de publics, pareil, on peut le faire sur l'intergénérationnel. Comment on rencontre différents que soi et on sort de la tentation du microcosme pour aller chercher cette altérité ? Pour sortir des clichés derrière, il faut aussi incarner ce que vous avez envie de proposer. Il faut que dans votre gouvernance, dans vos salariés, dans vos ambassadeurs, vos bénévoles, il y ait cette différence aussi et qu'ils soient des exemples chacun d'engagement. Parce que quelque part, cette envie de s'engager, elle part des gens autour de nous. Elle part des exemples qu'on a. Beaucoup de jeunes sont dégoûtés de la politique en regardant la télé, en regardant sur les réseaux, en suivant les élections, etc. Ils se disent, si c'est ça la politique, c'est pas pour moi. De la même façon, on pourrait reproduire ce schéma-là en entreprise où pour beaucoup, la première raison de démission ou de changement d'entreprise, c'est parce qu'on s'entend pas avec son équipe ou son manager ou sa manager. Que dans un processus de recrutement, on va aller plutôt vers une structure plutôt qu'une autre en regardant qui sont celles et ceux à la tête de la structure. Qu'est-ce qu'ils incarnent ? Une entreprise qui se dit inclusive, ouverte sur des sujets, par exemple, d'égalité de genre, qui derrière a que des hommes à son conseil d'administration, le message va sonner un petit peu creux. C'est comme ça, on regarde, on ausculte, on a l'information qui est directement accessible. Comment est-ce qu'on propose plus de cohérence, plus de transparence pour incarner les messages que vous proposez. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, je dis juste qu'on va être particulièrement vigilant sur la cohérence et notamment sur les têtes d'affiche, quels qu'ils soient, que ce soit sur le terrain ou dans les bureaux. Donc déjà, sortir des clichés, bah, il va falloir créer de la rencontre et ensuite l'incarner. Ensuite, il va falloir favoriser ce collectif. Ce n'est pas simplement de mettre les gens ensemble, c'est qu'il va falloir le travailler. Pour favoriser ce collectif, il faut d'abord investir des lieux. Des lieux qui permettent de se croiser. Je vous donne cette anecdote d'une entreprise du CAC 40 en Île-de-France, d'ateliers que j'animais, donc une entreprise par nature intergénérationnelle, avec une pyramide des âges très hétérogène, d'une jeune femme qui me disait « Mais moi, je ne sais même pas où ils sont les vieux. » Je lui dis « Comment ça ?» En fait, elle m'expliquait que la façon dont l'entreprise était organisée, globalement, on progressait dans la hiérarchie avec l'âge et l'ancienneté, et qu'en montant en responsabilité, on changeait de bureau, quoi, en l'occurrence, et notamment, on allait plutôt dans la tour d'à côté, dans l'espace d'à côté. Donc en fait, au quotidien, même si l'entreprise était intergénérationnelle par nature, au quotidien, ils ne se croisaient jamais, ni à la cantine, ni sur le parking, ni dans les projets, etc. Quel dommage. Entre-temps, ils ont déménagé, j'ose espérer que ça va mieux. Donc d'abord les lieux, mais c'est des lieux, mais là je parle d'entreprise, mais évidemment on peut reproduire ces lieux dans la société, dans des endroits comme Mia Mia qui permet cette rencontre entre des publics qui ne se rencontreraient pas sinon. Ensuite il faut réunir autour de causes communes. C'est là où encore une fois vous avez une partition à jouer. C'est qu'en fait on ne va pas se retrouver juste pour se retrouver. On a besoin d'être animé par un objectif commun. En l'occurrence, par exemple, j'animais un atelier avec des jeunes lycéens tout à l'heure. Certains disaient, moi, je veux défendre les ours polaires. Bon, très bien, vous êtes tous, on se retrouve autour de la défense et de la protection des ours polaires. C'est au service de cause qu'on va réussir à créer ces collectifs. C'est dans un objectif commun. C'est pas pour faire joli parce qu'on a envie de passer du temps avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés sinon. Il faut qu'on s'anime autour d'un objectif commun. Là encore, l'ESS a sa carte à jouer. Puis derrière, il faut renforcer les communautés, les entretenir, parce que c'est un effort de temps long de gérer ces collectifs. Puis derrière, il y a comment on permet la collaboration et la coopération. Encore une fois, je prends l'exemple de l'intergénérationnel, mais vous pouvez tirer mon propos sur tout axe de diversité et de tout axe de collaboration. Cette collaboration, elle se joue à deux niveaux, au niveau horizontal et au niveau vertical. Horizontal, déjà, comme je le disais, le premier facteur d'adéquation à un projet, c'est son équipe, c'est les gens qu'on voit au quotidien. C'est aussi le premier facteur de fidélisation, de rétention, d'engagement, je dirais, à un projet, et on arrive à le quantifier, à le pratiquer. Donc comment on permet la collaboration au niveau horizontal ? Ça, encore une fois, c'est quelque chose où vous êtes plutôt expert dans une gouvernance la plus travailler possible, la plus transparente, la plus homogène, la plus collaborative, où chacun a sa voix et son message à porter. Et puis derrière, il y a la coopération, la collaboration verticale, plus difficile, notamment quand on a des bénévoles, quand on a des personnes qui sont là plus ou moins longtemps, quand on a une relation hiérarchique pour faire avancer des prises de décision, par exemple. Pareil, là, je vais reprendre la nécessité d'incarner. C'est que derrière, on a besoin de modèles et d'une relation, entre guillemets, mentor-mentoré ou supérieur hiérarchique je ne sais pas comment on dit, inférieur, quelqu'un en tout cas qui est sous sa tutelle, et de recréer en fait une dynamique vertueuse. Je vous partage un autre exemple de la Marine nationale, par exemple, donc employeur majeur qui fonctionne naturellement en recrutant des jeunes, avec une structure pyramidale où quand on sort et c'est tout, et on ne va pas revenir plus tard. Une structure qui, pour se renouveler, en fait, a besoin de rechercher des nouveaux jeunes et d'essayer de les accompagner pour rester le plus longtemps possible. Globalement, la Marine n'a pas trop de mal à recruter. Les enjeux changent, les questions changent, mais ils restent employeurs attractifs de manière plus ou moins homogène sur le territoire. Là où ils ont des sujets, c'est sur la fidélisation. Faire en sorte que les personnes restent. Et contrairement à tous les autres acteurs, une fois qu'on part, c'est foutu. En l'occurrence, ils se sont rendus compte que les jeunes mousses, en l'occurrence, restaient 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais pas plus. Ils sont allés à leur rencontre pour leur poser la question. Et ce que leur ont dit les jeunes, c'est aussi simple que « Mais moi, si c'est pour devenir comme l'amiral machin, mais c'est hors de question. » Sur l'équilibre de vie, sur ce qu'ils renvoyaient, sur plein de choses, souvent, c'est du fantasme, c'est de l'imaginaire, c'est des choses qu'ils ne connaissent pas. mais ils avaient l'impression que, en fait, en regardant mon supérieur hiérarchique, ça me donne le ton de ce que je vais être après. Et donc, si c'est pour devenir comme ça, c'est pas question. C'est potentiellement un mauvais exemple, on est d'accord. Mais il y a quelque part quelque chose dans cette relation verticale de qu'est-ce que nous, chacun, au quotidien, on inspire aux personnes avec qui on collabore, en équipe, mais aussi en relation hiérarchique. Tout l'enjeu, c'est de recréer un dialogue. C'est de recréer une possibilité de dire ce qu'on pense, de dire quand on n'est pas d'accord, de développer notre esprit critique. Là, pareil, je vais convoquer une entreprise, pas tout à fait d'ici, mais pas très très loin, une entreprise bretonne, ENAF, les pâtés ENAF, que vous connaissez sans doute. ENAF, entreprise familiale de génération en génération, qui produit donc du pâté, donc plutôt difficile à porter dans un contexte de bien-être animal, de transformation environnementale, qui va sur le territoire des algues pour changer ses produits, mais en l'occurrence qui reste producteur de pâté. Ce qu'a fait la relève, notamment Loïc ENAF, l'héritier aujourd'hui dirigeant, c'est d'entamer un gros projet de transformation RSE au service d'une réinvention de leur modèle économique, mais aussi de leur modèle social. Et surtout de travailler ce fameux dialogue. Ce qu'ils font quand ils ont des nouveaux arrivants, ils organisent une visite de l'ensemble de la chaîne de valeur. Ils vont visiter notamment les abattoirs où se produit donc le pâté. Ce qu'ils cherchent à montrer, c'est un, d'être le plus transparent possible sur la façon dont ils travaillent, mais aussi et surtout de permettre le dialogue, parce que dans ces visites vient si possible un membre du COMEX, un membre du comité exécutif, qui du coup est là pour présenter, mais aussi pour ouvrir une discussion tout au long d'une collaboration où ce sera possible de lever la main et de dire « moi j'aimerais comprendre ça, moi je suis pas d'accord avec ça, moi j'aimerais proposer, etc. etc. » Faciliter les échanges donc, mais c'est pas toujours si simple. Parce que derrière, on utilise les mêmes mots, mais ils veulent pas dire la même chose, ou on utilise une langue différente, où on n'arrive pas trop à se comprendre. Et puis bien sûr, comment promouvoir une certaine authenticité, une certaine transparence dans la façon dont on collabore. Pour faciliter les échanges, parfois il faut juste redéfinir le vocabulaire, sortir de l'interprétation. Par exemple, un des sujets qui revient beaucoup chez les employeurs que je rencontre, c'est les horaires au travail ou dans un engagement ou en tant que bénévole. Mais en fait, quand moi j'ai dit 17h, ça ne voulait pas vraiment dire 17h, ça voulait plutôt dire 18h. En fait, c'est ça les codes chez nous. Inversement, on prend au pied de la lettre une interprétation sur un horaire. Pareil, c'est peut-être un exemple bête et méchant, mais qui est très efficace quand on parle de cette fameuse collaboration. Ensuite, il faut clarifier les règles du jeu. Donc peut-être les mots, oui, mais aussi les règles du jeu. Les règles du jeu avant, pendant et après une collaboration. Et promouvoir le plus possible cette transparence et ce dialogue, cette écoute pour arriver à collaborer. Se pose donc un nouveau débat sur ce collectif qu'on essaye d'organiser. Est-ce qu'on fonctionne en équité ou en égalité? Est-ce qu'on traite tout le monde à la même enseigne? On fixe des règles du jeu pour tous? Ou est-ce qu'on s'adapte en fonction des contraintes des uns et des autres? Le sujet de la parentalité, par exemple, a un petit peu amorcer cette réflexion-là, de est-ce qu'on permet aux jeunes parents un certain aménagement de leurs contraintes horaires, ou est-ce qu'on le permet à tous, sous prétexte qu'il n'y a pas d'engagement plus important les uns que les autres, entre parents, je ne sais pas, militants, bénévoles, etc. Je n'ai pas la réponse. Honnêtement, entre égalité et équité, le débat se pose. Néanmoins, je pense que c'est l'occasion de se reposer la question dans les règles qu'on fixe, parce qu'on ne va pas pouvoir faire du cas par cas et du sur-mesure pour tout le monde. Quel cadre on définit et comment est-ce qu'en fonction des situations, on fonctionne plutôt en égalité ou en équité? Tout l'enjeu pour ce collectif, c'est de recréer une notion de co-responsabilité, de redonner du pouvoir à chacun dans sa trajectoire, dans son engagement, dans son travail. Comment est-ce qu'on redonne comme ça un pouvoir d'agir? Je le dis parce que souvent, quand on parle notamment des jeunes, j'ai tout un tas d'objections sur « ils ont un poil dans la main, de toute façon, ils ne sont pas prêts à le faire », etc. etc. Encore une fois, on peut argumenter « est-ce que ce n'est pas les mêmes reproches qu'on faisait aux jeunes il y a 10 ans, aux jeunes il y a 20 ans, aux jeunes de 50 ans ?» Néanmoins, on touche quelque chose du doigt. À force de faire des études où on pose la question aux jeunes « qu'est-ce que vous voulez au travail ? Qu'est-ce que vous attendez d'une entreprise ?» D'autant plus dans un contexte de l'emploi où le rapport de force est plutôt en faveur des salariés et des collaborateurs pour l'instant. quand on n'arrête pas de poser la question, bah, quand moi on me pose la question, tu veux quoi d'un travail ? Bah, tout. Je veux être bien payée, je veux du sens, de l'impact, des bons horaires, etc., etc. En fait, c'est normal. Les réponses qu'ils fournissent sont presque normales et puis souvent en réaction à un champ de contraintes qu'ils observent autour d'eux. Mais derrière, est-ce qu'on n'enlèverait pas une sorte de responsabilité d'être acteur et non pas consommateur de son engagement ou de son travail ? Comment est-ce qu'on recrée cette dynamique de « on est tous porteurs et co-responsables de la bonne réussite d'un projet ?» Moi, j'aime bien promouvoir l'avènement de nouveaux pactes. En fait, on a individualisé les relations, les contrats de travail, la façon dont on collabore ensemble au quotidien. Peut-être qu'il faut rééquilibrer un petit peu la balance, c'est pour ça que j'utilise le mot pacte, parce qu'il y a une notion d'horizontalité, de donnant-donnant, de devoir et de responsabilité des deux côtés, et puis on est d'accord ensemble. Et puis derrière, un pacte, ça s'évalue, ça se quantifie, ça se mesure dans le temps. Parce que derrière, dans cette coopération que j'appelle de mes voeux, il y a tout un enjeu de pilotage, de quantification, de mesurer la performance entre guillemets d'un collectif. Encore une fois, il ne s'agit pas de mettre des gens ensemble pour faire beau, pour faire bien. Parfois, ça ne marche pas et c'est OK. Mais comment est-ce qu'on réévalue nos relations individuelles, interpersonnelles et aussi d'un collectif pour promouvoir ces nouveaux pactes, ces pactes équilibrés ?
Je devrais être heureux comme un pape, j'ai un pape, je suis invité. Moi qui aime traîner la savate, les belles cravates et l'oisiveté. Et discuter du grand amour, cravate de velours pour toute la vie. Même si la vie ça fait beaucoup, cravate au cou à mon avis. Je suis sapé comme un notaire, cravate blazer et nous dansons. Et lorsqu'il commence à m'en cuire, cravate de cuir et je me morfonds. Cravate à pois, cravate de soie. Cravate à pois, cravate de soie. J'en ai ras-le-bol à la coupole, cravate au col, de boire du thé. Quand je préfère aller jouer, cravate dénouée, ma chance au dé. Le mariage n'est plus à la mode, cravate en sol dans cette saison. Et jamais je ne moisirai, cravate à raie dans une prison. Alors au lieu de me morfondre, cravate de Londres, je file à l'anglaise. Avec ça j'emporte vos ronds, cravate marron pour être à l'aise. Cravate à pois, cravate de soie. Cravate à pois, cravate de soie. D'abord vous vous laisserez abattre, cravate verdâtre, vous me regretterez. Et puis vous serez écarlate comme ma cravate quand vous pigerez. Et moi j'aurais pris les devants, cravate au vent ainsi que le soin. Dans votre triomphe décapoté, cravate mouchetée de changer de coin. Avant que la colère ne darde, cravate moutarde son aiguillon. Et que l'on songe à m'arrêter, me cravater au portillon. Cravate à pois, cravate de soie. Cravate à pois, cravate de soie. Avant que cette histoire se termine, cravate d'hermine par un procès, qu'on me confisque tout ceinture, cravate bien sûr et mes lacets. Adieu et j'emporte l'argenterie, cravate, rubis et vos bijoux, pour m'offrir les cravates que j'aime, c'est-à-dire crème, merci mon chou. Je m'en vais ailleurs me faire pendre, cravate de chambre, adieu beauté, et puis m'en jeter un derrière la lavalière à votre santé. Cravate à pois, cravate de soie. Cravate à pois, cravate de soie.
Plus qu'un collectif, l'engagement c'est aussi du temps long. Et c'est probablement là l'un des enjeux, un des problèmes de l'époque, dans une époque de l'instantané, du zapping, du slashing. Globalement, comment est-ce qu'on se réinvestit sur du temps long ? Vu la temporalité des transformations qu'on doit mener. Là, pareil, je vous propose deux grilles de lecture, et ce sera ma dernière partie, une grille au niveau individuel et une grille au niveau collectif. comment est-ce qu'on fait de l'engagement de temps long ? Comment est-ce qu'on refait de l'engagement de temps long ? Comment est-ce qu'on répond à qui va le faire aujourd'hui, demain ? À l'échelle individuelle, comme je le disais, l'époque change, l'engagement aussi. Donc pourquoi pas adapter, entre guillemets, nos définitions ? Et pareil, c'est plutôt un constat et du coup une solution que un regret d'un monde d'avant ou d'un monde d'hier ou un souhait du monde de demain. À l'échelle individuelle, déjà, ce qu'on nous dit haut et fort, c'est qu'il n'y a pas la vie pro, la vie perso, il y a la vie tout court. Il y a la vie, et dans toute ma vie, je suis consommateur, citoyen, acteur, collaborateur, etc., parent, frère et sœur, enfant. En fait, je suis et dans la vie, et dans tout, il faut que la vie, le travail, mon engagement, tout s'imbrique. Et puis, dans cette vie, bah, il y a des moments où on est prêt à mettre le pied sur le frein, ou sur l'accélérateur, ou appuyer sur le frein. En fonction bah, de sa santé, en fonction de la santé de nos proches, en fonction de sa santé mentale, sa santé physique, en fonction d'événements de vie qui sont plus du tout linéaires, en fonction d'un besoin de se reformer, parce qu'on a envie de bifurquer, de se réinventer professionnellement. Comment est-ce que, même dans l'engagement, on accompagne ces moments de frein et d'accélérateur pour permettre aux personnes de s'engager tout le temps, ou ponctuellement, ou en même temps ? Encore faudrait-il que les personnes sachent s'orienter vers leur parcours d'engagement. Et donc, comment est-ce qu'on favorise une certaine formation à l'engagement, une formation dans son engagement ? Quelque part, c'est aujourd'hui ça qu'on attend de l'entreprise, de l'association. C'est de la formation, c'est de l'apprentissage, c'est des opportunités. Et de servir des choses qui nous tiennent à cœur, encore une fois, c'est être utile pour moi. Et puis, utile pour moi, parfois s'aligne avec utile au monde. Et tant mieux, valorisons-le. Comment est-ce qu'on forme à l'engagement, donc ? Comment est-ce qu'on donne envie de s'engager ? Et puis la formation derrière, c'est bah, permettre aux gens bah, de faire du plaidoyer, de faire de l'influence, de bien communiquer, en fait, d'accompagner leur parcours de vie aussi en s'engageant. Ensuite, il va falloir valoriser l'engagement sous toutes ses formes. Comme je le disais, l'engagement dit traditionnel, s'effrite. Les chiffres sont là, quand on pose la question aux jeunes, c'est je crois 7% d'entre eux qui veulent s'engager en syndicat, qui projettent de s'engager dans un syndicat, c'est 11% en politique, les chiffres sont dérisoires. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas engagés, leur définition est tout simplement très différente. Comment on capitalise du coup sur des institutions différentes, un système qu'ils ne voient pas de la même façon, et pourtant le terreau est là. Donc comment on valorise l'engagement sous toutes ses formes ? Pareil, tout à l'heure, on a fait l'exercice, j'ai posé la question aux jeunes de l'atelier. Quels sont pour vous les verbes d'action que vous pourriez utiliser dans votre engagement ? On a eu autant d'exemples que de jeunes présents dans la salle. Pour certains, c'est parler, témoigner. Pour d'autres, c'est agir. Il y en a qui disaient, bah, moi, c'est par exemple contre le cancer, bah, c'était de donner ses cheveux. Il y a vraiment eu une palette de verbes d'action qui décrivaient autant de formes d'engagement différentes. L'engagement sous toutes ses formes, donc comment en tant que parent, comment en tant que citoyen, comment en tant que structure de l'ESS, comment en tant qu'entreprise, vous êtes valorisateur, entre guillemets, amplificateur de ces engagements différents et de les permettre en même temps que le travail, en même temps que d'autres rôles qu'on a dans notre vie. Et puis derrière, il y a créer les bonnes conditions, comme je le disais. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un monde de zapping, où on fait... une chose, puis on passe complètement à autre chose, et puis j'ai fait le tour, et puis je reviens. Je sais que c'est un des gros enjeux des acteurs de l'associatif, comment est-ce qu'on garde des bénévoles pour des engagements de temps long. Pareil, on a envie de faire plusieurs choses en même temps, et puis de faire un petit peu, et de faire beaucoup, et puis de changer, etc. Puis à un moment dans sa vie, on va mettre, on avait envie de gagner plus d'argent, donc on va vouloir plus travailler, etc., etc. Surtout, comment est-ce qu'on crée un engagement qui ne devient pas sacrificiel, où c'est à tout prix ? Puisque quelque part, ils le refusent. Et c'est pas que les jeunes, encore une fois, comme je le disais, les jeunes, c'est une loupe grossissante sur un mouvement un petit peu de tendance de fond, de personnes qui sont de moins en moins en vie de donner du temps, en tout cas sur du temps long. L'engagement n'est pas toujours gratuit. Les gens cherchent de la reconnaissance, ils cherchent quelque part à s'y retrouver dans ce pacte qu'ils font avec eux-mêmes et ce pacte qu'ils font avec vous. Comment est-ce qu'on retravaille ce pacte, qu'on le rend visible et qu'on permet de toucher du doigt ce dont les gens ont besoin ? Et donc de valoriser. Encore une fois, valoriser, ça ne veut pas forcément dire payer, on est d'accord. Valoriser, ça veut dire encourager, remercier, etc. Certains, enfin, globalement, je suis comme vous. Est-ce qu'on a besoin de valoriser chaque forme d'engagement ? Bah, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est attendu. Et puis derrière, de l'individu au collectif. Et pour finir comme ça sur comment on passe du je au nous. Globalement, c'est bah, tout l'enjeu et c'est tout ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous ferez encore demain, c'est d'abord de réunir. De réunir, bah, encore une fois, valoriser ceux qui s'engagent. De favoriser l'action du collectif et de faire la démonstration dès l'école, dès qu'on est étudiant, de montrer comment le faire ensemble peut être plus puissant que le faire chacun. De raconter, en fait, et de raconter ses engagements. J'ai fait une grosse étude avec l'association Youth Forever sur cet engagement et sur, notamment sur les contrats de travail. Donc c'était l'engagement au travail. En fait, la jeunesse d'aujourd'hui est héritière d'un droit du travail, d'une façon de travailler, d'un rapport de force sur le marché du travail qui s'esquisse depuis 100 ans. Aujourd'hui, on est dans un rapport très consommateur, très transactionnel vis-à-vis de son travail et ça a été permis par une société qui évolue dans ce sens. Par contre, quand on leur pose la question... Quels sont pour vous les exemples de moments où le collectif a fait avancer la cause des travailleurs ? Bah, les exemples ne sont pas glorieux. En l'occurrence, ils parlent du Covid, c'est souvent un moment où ils se disent qu'il y a eu des gros changements, etc. Ils parlent des gilets jaunes, pareil, pas super encourageant. Ou ils parlent de la réforme des retraites, qu'ils ont vécu de près ou de loin, mais où pareil, c'était dans la rue, c'était hors système, c'était à leurs yeux pas réussi. C'est ça pour eux les victoires collectives au travail, ou en l'occurrence plutôt défaites à leurs yeux. Ils n'ont aucune mémoire, aucune histoire à raconter d'autres récits d'un collectif qui a permis comme ça positivement de faire avancer les choses pour les travailleurs. On pourrait reproduire les mêmes exemples en société. Quels sont comme ça, interrogez les personnes autour de vous, jeunes ou non, quels sont pour vous peut-être le moment où vous avez été impressionné d'une transformation pour des causes qui vous tiennent à cœur par un collectif. Les exemples sont peu nombreux parce qu'en fait, on n'entretient pas ces récits, on ne les raconte pas. Une fois que c'est fait, on passe à autre chose et on fait autrement. Comment est-ce qu'on recrée, pour sortir d'une sorte, certains anthropologues parlent d'amnésie sur la cause environnementale, on oublie en fait que les choses se reproduisent. On pourrait parler d'amnésie générationnelle quand on ne reproduit pas les récits. Pareil, on ne peut pas reprocher de ne pas avoir d'exemple où ça vaut le coup en fait de s'engager ensemble, que ce soit représentant du personnel, membre politique ou citoyen. Donc il faut raconter les récits et témoigner. Et puis renouveler. En fait, c'est itératif l'engagement. Ça va être de se dire, on fait un test, on voit dans 6 mois, est-ce que ça a fonctionné ? On fait un bilan, on recommence. Et puis comme ça, on sert les causes qui nous tiennent à cœur. Bref, je vais m'arrêter là. Mais pour conclure, j'aimerais peut-être convoquer 3 piliers, moi, qui sont force d'engagement pour moi. 3 leviers que j'utilise au quotidien, que j'ai envie de vous partager. Et 3 sources d'engagement qui me permettent de répondre au moins à la question de qui va le faire. J'espère pouvoir compter sur moi. Déjà, c'est un peu d'humilité. Humblement, encore une fois, chacun seul dans son coin, on ne va pas changer le monde. On va essayer de poser un peu sa pierre à l'édifice. On va essayer de contribuer avec les talents qu'on a. Moi, c'est parler. Je parle. En l'occurrence, comment est-ce que je reste humble quand même dans mon approche et je me préserve en avançant. Ensuite, il y a une bonne dose de courage que je vous encourage à avoir. En l'occurrence, du courage à regarder l'époque dans ce qu'elle est. Courage à se dire les choses. Courage à renoncer. Courage à abandonner pour recommencer. Courage à pas tout faire tout en même temps. Courage à tenir sur le temps long. Et puis, bien sûr, la joie qui, pour moi, est un moteur immense. La joie que me procurent des événements comme celui-ci, des rencontres avec vous, la joie d'être en action, en fait, pour les causes qui me tiennent à cœur. Donc voilà, je voulais finir par une invitation à humilité, courage et joie. Merci à vous d'avoir été avec nous.